Jean-Pierre Améris, bonjour. Alors, très heureux de vous revoir. Après, c'était Les Folies fermières. Le film qui a bien marché quand même. Hein. Bon accueil.
Bon accueil.
Ouais. Alors, comme dans Une famille à louer et Les Folies fermières, justement, vous faites rencontrer deux mondes qui apparemment n'ont rien à voir entre eux. Apparemment, dirais-je.
C'est vieux comme le théâtre, hein, l'opposition hein, des contraires. Moi, ce qui peut-être lie mes films hein, les uns aux autres, c'est toujours l'attention aux petites gens, au milieu modeste d'où je viens, et les petites gens dont j'essaye de montrer la grandeur et souvent même l'héroïsme. Ce que j'aime filmer, c'est justement les rencontres, les gens qui se lient à d'autres, comme le paysan des Folies fermières qui, pour sauver sa ferme de la faillite, se liait à des artistes de cabaret. Donc en effet, des mondes étrangers l'un à l'autre qui vont faire communauté, faire collectif. Là, c'est sur la base du roman de Muriel Magellan, qui s'appelait Changer le sens des rivières, qui avait eu un joli succès en Belgique.
En 2019, ouais.
En 2019. J'ai aimé tout de suite cette thématique et ces personnages. La thématique, c'est est-ce qu'on peut, en effet, quand on est né du mauvais côté de la barrière sociale, avec les mauvaises cartes en main, comme c'est le cas de Marilyn, est-ce qu'on est voué à être toujours sur les rails que la société nous alloue, ou est-ce qu'on va pouvoir changer le cours des choses? Et c'est la grâce de la rencontre avec ce vieux juge misanthrope, il va l'y aider à changer les choses.
Alors on parle de Muriel et de son roman, en fait c'était son cinquième. Elle a travaillé avec vous depuis 2009, c'était la première fois je crois, c'était La joie de vivre, et puis il y a eu justement aussi les Folies, enfin, Profession du père, Une famille à louer, et Illettré. Pourquoi finalement cet ouvrage-là et pas un autre? C'est elle qui vous l'a suggéré ou vous l'avez pris dans sa bibliothèque? Comment ça s'est passé?
Non, Muriel Magellan a écrit plusieurs de mes films. Elle est romancière également, hein, donc je lis bien sûr toujours ses romans. Mais en lisant celui-ci, Se changer le sens des rivières, son cinquième roman, là je lui ai dit, écoute, là je sens qu'il y a un film, je sens qu'il y a des personnages. Je lui ai d'ailleurs proposé de l'adapter elle-même, elle n'a pas voulu parce que, étant scénariste et étant adaptatrice, elle sait bien ce que l'on inflige au roman, quoi, et elle n'avait pas envie de se l'infliger à elle-même. On ne peut pas tout garder d'un roman, hein. Souvent c'est 250 pages, ça ne fait pas une heure et demie, et puis on passe quand même d'un art à un autre, de la littérature au cinéma, c'est pas la même chose. Elle peut décrire toutes les pensées dans la tête de Marilyn. Moi, à moins d'avoir une voix off, hein, mais c'est pas le cas ici, je dois être dans le comportement, dans les situations.
Il n'y a pas des frustrations pour Muriel? Elle n'a pas voulu jeter un coup d'œil? Non, tiens, je vais quand même aller voir ce que tu en as fait.
Je suis allé chercher une scénariste formidable, Marion Michaud.
Avec qui vous avez déjà travaillé aussi.
Voilà, qui était aussi sur Les Folies fermières. Hein, qui écrit là le prochain film et qui a beaucoup d'humour, mais dans le respect du livre, on a pu changer des choses. Muriel nous disait, le plus important, c'est quand même ce message, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même l'histoire d'une émancipation, c'est ce personnage de Marilyn qui va de l'avant et qui va découvrir ça, que rien n'est figé et qu'on peut reprendre sa vie en main à 25 ans pour elle, mais même plus tard. Qu'elle nous disait aussi, surtout ne faites pas du juge misanthrope un Pygmalion. Elle ne voulait pas que ce soit une sorte de My Fair Lady ou un vieux monsieur qui apprend des choses à une jeune femme inculte. C'est plutôt un homme qui va l'encourager à être curieuse, quoi. Quand elle ne connaît pas des mots, puisque c'est beaucoup une histoire de langage, elle ne connaît pas le mot symbiose, elle ne connaît pas le mot cinéphile, elle ne connaît rien au cinéma, il lui dit, regarde, découvre par toi-même, quoi. Il la bouscule, quoi. Et j'aimais cette relation. Lui, il va l'éveiller, et elle va le réveiller, parce que c'est à double sens, quoi. C'est pas que dans un sens.
Alors, bravo pour vos répliques. Je trouve qu'il y en a qui sont vraiment magnifiques et qui touchent et qui font mouche. Je me permets quand même d'en lire quelques-unes. Pourquoi tu t'excuses tout le temps? À force d'être modeste, on arrive à devenir médiocre. Marilyn qui dit... T'as peur de devenir débile, t'inquiète pas, c'est pas contagieux. Vous n'êtes pas sinistre, mais vous n'êtes pas non plus un rayon de soleil. Je trouvais ça quand même assez cocasse. L'histoire de la coupe de bois, ça fait 20 ans que je coupe du bois, c'est beau aussi ça, comme image. Et la sœur de Marilyn, il faut que la honte change de camp, allons pour fendre les préjugés. C'est beau quand même. Hein. C'est, ça vous vient naturellement
ou... Alors, c'est tout méritant. On revient à Marion Michaud, hein. Vraiment une excellente dialoguiste. Hein, et on le fait ensemble, mais quand même, c'est beaucoup elle. Il faut vraiment dire la part des auteurs. Je dis toujours que Philippe Blasband, le scénariste belge des Émotifs Anonymes, le film lui doit beaucoup, l'humour du film lui doit beaucoup. Il faut toujours dire la part des auteurs. Moi, je ne suis pas un écrivain, tandis que Marion Michaud et Muriel Magellan sont des femmes de lettres. Et moi, j'ai besoin de leur talent.
Comment s'est passée la rencontre avec Michel Blanc? Comment vous avez été le trouver et comment vous avez pensé à lui pour ce personnage?
Souvent, tout se passe à l'écriture, hein, qui est longue, même une adaptation. Allez, c'est une bonne année de travail, on fait plusieurs versions. Et puis, à un moment donné, des acteurs, des actrices s'imposent. Dire la vérité, c'est Louane en premier. Ah oui. Une évidence. Pour moi, je suis arrivé à une séance de travail sur le scénario en disant « Une évidence, c'est Louane, ça ne peut être qu'elle. » Il n'y a pas eu de casting, c'était elle. Je n'ai pas fait passer d'essai. Enfin, une absolue certitude. Sans doute parce que sa vie, telle qu'elle la raconte, Louane, recoupe celle du personnage de Marilyn. Une enfance perturbée par l'hyperactivité, par le trouble de l'attention. Ensuite, c'est le deuil des parents, le père d'abord, puis la mère ensuite en une année. Donc, beaucoup de coups durs et en même temps... quelque chose en elle, un rayon de soleil, un don de la vie, une pulsion de vie est énorme. Et c'était vraiment notre Marilyn, donc ça nous a bien inspirés. Et en continuant d'écrire, Michel Blanc est arrivé. Après, peut-être on pouvait penser à quelques autres, mais lui, je savais qu'il a en lui quoi, ce comique presque malgré lui, quoi, et que ça allait faire l'étincelle. Quoi. Je voyais, moi je suis un visuel, je voyais Louane. Et Michel Blanc, je trouvais, dans une petite Twingo rose, je trouvais que ça faisait l'étincelle, et c'était drôle en soi, et attachant.
En parlant de Louane, en général, quand une comédienne a des tatouages, il y a la maquilleuse qui passe son temps à tout effacer, et vous, à la limite, c'est plus l'inverse. Et elle vous a expliqué un petit peu son parcours.
Moi, je fais avec le réel des acteurs et des actrices que je filme, hein, j'essaye... Surtout, en effet, de les dépouiller de beaucoup de savoir-faire, chez Louane, notamment de sa volonté et de sa crainte. Hein. Elle est quand même inquiète de ça. Hein. Le cinéma lui est tombé dessus. Elle n'a pas pris de corde dramatique, donc elle se demande toujours « Est-ce que j'ai bien joué ?» Et je lui disais toujours « Il ne s'agit pas de bien jouer, il s'agit d'être. » Hein. Simone Signoret, à la fin de sa vie, disait « En vieillissant, on apprend ça, qu'il ne s'agit plus de jouer, il s'agit d'être. » Et elle a lâché quelque chose, elle s'est laissée filmer. Michel Blanc aussi, je crois, a mis beaucoup de choses de lui dans le film. Et donc, filmant les gens tels qu'ils sont, j'ai filmé les tatouages de Louane. Il y en a 40 en plus. Donc, il y en a 40. Donc, j'allais pas les enlever, je trouvais que ça allait bien au personnage.
Un autre personnage important, quand même, dans le film, c'est. Donc un autre personnage important, c'est Alexandre, qui est interprété donc par Victor Belmondo. C'est un choix symbolique finalement avec Victor, parce que il faut quand même bien dire que il vient de jouer Vadim dans la série Bardot. Qu'en plus de ça, la façon dont il filme, c'est du Godard quand même, avec la caméra à Godard. La nouvelle vague, Truffaut. Enfin, je veux dire, on s'est dit, ça y est. Vous l'avez fait exprès.
Alors, pas complètement de façon consciente. Je cherchais surtout un jeune acteur qui ne soit surtout pas antipathique ou prétentieux. Ce Alexandre, donc, hein, dont est amoureux Marilyn, est un cinéphile, il a une passion pour le cinéma, et c'est ça qui va les séparer, quoi. C'est la culture, elle qui n'y connaît rien, donc il se demande un peu, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire et faire ensemble. Mais il ne fallait pas qu'un acteur qui puisse être prétentieux ou antipathique... Et c'est en voyant Victor Belmondo dans « Envole-moi » de Christophe Baratier, je me suis dit « Ah oui, il a quelque chose ». Et pour être honnête, j'ai pas tout de suite pensé qu'il ramène le cinéma avec lui. Hein. C'est quand même le petit-fils de Belmondo. Et ça va bien avec le sujet. Lui, c'est quand même le monde de l'art. Et Louane, c'est le monde prolétaire. Hein, quand même. Et donc, il l'incarne chacun dans leur personnalité, dans leur corps même. Hein. Et c'est vrai que j'ai pu, à un moment donné, sans prétention, hein, mais me la jouer un peu... quand il la filme sur le lit, sur un mur blanc,
la caméra
super vite, avec un mur blanc et trois cartes postales, un petit hommage à Godard et à son grand-père.
Vous êtes adepte du naturalisme de Maurice Engel aussi ?
Alors j'aime beaucoup ce film, hein, Le Petit Fugitif, dont il est question. Et puis moi j'ai un peu de quelque chose d'Alexandre aussi, hein, sans doute que j'étais très saoulant aussi à 20 ans quand je ne parlais que par référence de film, hein, et même des copains proches devaient en avoir marre. C'est difficile, il faut absolument transmettre hein, son savoir, mais j'essaye toujours, moi, de dire, moi qui fais beaucoup de séances dans les collèges et les lycées avec mes films, j'essaye toujours de dire, n'ayez pas peur quoi, de la culture, quoi. Il ne faut pas qu'elle vous écrase. Quoi. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, hein, quand même, ont peur, ou se disent, c'est pas pour moi, cette phrase terrible, ou se disent, ont des a priori terribles sur un film en noir et blanc de 1960, sous-titré, enfin, je vois même dans mon entourage, hein, mon beau-fils, c'est la croix et la bannière hein, de lui faire voir Citizen Kane ou un Lubitsch. Hein, donc, parce que, a priori, c'est vieux, quoi, c'est plus pour nous. Et une fois qu'ils sont devant, justement, comme on le voit dans le film, ça peut les cueillir. Ça peut les cueillir. C'est ça, quand même, l'art. Hein, ça nous console, ça nous apporte des choses, ça nous émerveille.
C'est vrai
ça
que
nous conserve.
Regarder Jules et Jim en repassant, c'est vrai que c'est pas courant, quand même.
C'est pas courant, mais c'est une image que j'avais. Et là, celui qui joue le père de Marilyn est vraiment merveilleux. Je trouve Philippe Rebaud, désarmant d'humanité. Et ce père est devenu agoraphobe suite à un accident du travail sur les docks. Et donc, Marilyn est pour lui une aidante, hein, comme on dit. En France, on a 11 millions d'aidants. J'imagine qu'il y en a beaucoup aussi en Belgique, des jeunes gens qui s'occupent de leurs parents ou d'un proche handicapé. Et il la regarde regarder Julie Jim, alors qu'elle regarde plutôt Koh-Lanta ou la télé-réalité, avec émerveillement quand même, et admiration. Tout d'un coup, c'est surprenant qu'elle regarde un film en noir et blanc.
En tant que père, quand même, il a un côté égoïste, parce qu'il la sent partir, et c'est lui qui va se retrouver vraiment tout seul,
C'est la force de Marilyn, hein, c'est un peu ce que dit le film. À un moment donné, il faut savoir partir, hein, larguer les amarres, prendre le large, et elle résiste au chantage affectif que lui fait le père. C'est-à-dire, si tu t'en vas, je me suicide. Et elle sait résister à ça, parce qu'à un moment donné, on peut dire que c'est égoïste, mais je crois qu'il faut quand même penser à soi. Quoi. Elle qui a toujours été dans le don de soi pour les autres, là, elle apprend quand même, à un moment donné, à savoir partir et à résister au chantage affectif. Et finalement, on voit bien à la fin que ce père, elle le fait bouger aussi. Dans le film, tout le monde est enfermé, le père dans sa maison, le juge dans sa maison et dans sa de justice, Alexandre finalement dans son studio et dans ses films, et elle finalement, elle va d'un milieu à l'autre, elle bouge, et puis à la fin elle part, quoi. Donc c'est le personnage en mouvement.
Alors un autre personnage important, c'est la fameuse voiture. Je me suis demandé si vous l'aviez déjà en tête au moment de votre écriture, les accessoires, la couleur, ou est-ce que vous avez donné carte blanche à votre accessoiriste?
Dans le roman, c'est une Ford Fiesta verte. Et moi, alors, justement, je change les choses. Et donc, ça devient une Twingo rose. C'est drôle parce qu'on l'a achetée à une dame âgée qui ne pouvait plus conduire à cause de sa mauvaise vue, mais qui en avait pris soin, mais comme de la prunelle de ses yeux. Hein. Elle était nickel, cette Twingo. Évidemment, on n'a pas dit à cette dame que dans le film, il fallait qu'elle soit cabossée. On l'a cabossée, on lui a mis une porte bleue. On l'a accessoirisé, et j'espère que cette dame ne verra pas le film, parce qu'elle sera bien triste pour sa Twingo. Mais il fallait que ce soit un personnage, quoi. Hein, ça. Je disais des fois en plaisantant que c'était un peu ma coccinelle à Monte Carlo à moi, mais c'est le troisième personnage, c'est-à-dire cette voiture est comme les personnages, blessée, cassée, mais vaillante, qui avance. C'est vraiment la nature du film, hein, c'est ça. On est tous blessés, cassés, mais il faut avancer.
Votre choix musical, Guillaume Ferrand, qui a composé, mais et aussi Julien Clerc avec Les Séparés, les musiques classiques pour Monsieur le Juge, et Louane qui chante quand même aussi et qui a composé.
J'ai demandé à Louane, hein, pendant le tournage, hein, si elle serait d'accord pour composer une chanson inédite pour le générique de fin, et elle l'a fait. C'est une très belle chanson qui complète la lecture qu'on peut avoir du personnage de Marilyn. Sinon, en effet, il y a une magnifique chanson de Julien Clerc qui a sa place dans la dramaturgie, hein, Les Séparés de...
Vous la connaissiez avant
ou... Ah oui, c'est très choisi, et pas pour rien, c'est une chanson sur le deuil, hein, c'est un poème de Marguerite Desbordes-Valmore, là, une poétesse du XVIIIe, et c'est merveilleux sur le deuil que connaît le personnage du juge. Important la musique, et Guillaume Ferrand, jeune compositeur, son premier film comme compositeur d'un long métrage, un musicien du rappeur Lompal, et j'avais écouté beaucoup de ses bandes comme ça sur des courts-métrages, et j'ai trouvé qu'il avait une couleur.
Je demandais à Michel, qui est un fanatique de musique classique, s'il était intervenu dans le choix, il me dit oh, rien du tout.
Ce qui est formidable, Michel est un excellent réalisateur, très bon adaptateur, scénariste, mais comme acteur, absolument respectueux de vos choix. On s'est bien trouvé quand même, hein, très consciencieux, très anxieux l'un comme l'autre, un peu obsessionnel pour dire la vérité, en tout cas pour Ferland. Et il a aimé enfin, cette, le fait que je sois quand même très précis et que je sache bien ce que je veux et très préparé. Quoi. C'est pas quelqu'un qui aime l'improvisation ou le flottement hein, quand même. Hein. Et jusqu'à des fois le diriger, par exemple, dans la scène du bar, à la fin, je crois qu'il le raconte lui aussi, hein, mais ils l'ont joué tac au tac, un peu comme comédie, quoi. Alors, je disais, c'est un moment d'émotion. Moi, ce que j'essaye de filmer, c'est ce qu'il y a entre les personnages et entre les dialogues. Ça flotte. Et il résistait, quoi, un peu. Hein. Il disait, mais tu vas ennuyer ton public. Et puis, finalement, il l'a fait. Il a fait les silences, et ça l'a, je crois, convaincu quand il a vu le film.
Alors, un dernier mot, j'ai découvert le ghosting. C'est un mal du siècle, non ?
Alors, c'est pas moi hein, qui vais vous apprendre ce qu'est le ghosting, je l'ignorais moi aussi. Il y a plein de choses, hein, où Louane, d'ailleurs, hein, m'a pris en flagrant délit d'être vieux. Hein,
donc, vous avez regardé aussi dans le dictionnaire ?
Non, mais bien sûr, mais au final, ça, c'est la scénariste Marion Michaud qui l'a apporté, ça. Et c'est vrai que c'est ghoster hein, quelqu'un, ça se fait beaucoup, semble-t-il, hein, mais c'est tout d'un coup ne plus appeler du tout la personne, quoi. Hein, qu'est-ce qu'on aurait dit, nous, la snobée.
Jean-Pierre, un grand merci. On rappelle donc Marilyn et son juge qui sort le 11 octobre. Merci en tout cas.
Merci à vous.